Les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Kinshasa. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués en congrès ce jeudi pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila. Il s'agit d'un discours très attendu qui devrait fixer l'opinion et dissiper des doutes sur un éventuel troisième mandat consécutif que redoutent ses opposants. Pour rappel, le deuxième et dernier mandat de M. Kabila s'est achevé depuis décembre 2016. Mise en perspective à Kinshasa, Thierry Kabundi de Top Congo FM.
Cette adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès intervient dans un contexte particulier à 5 mois des élections, mais surtout à moins d'une semaine du début du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre courant. Quoiqu'ayant rappelé plusieurs fois qu'il respectera la constitution qui ne lui permet pas un troisième mandat consécutif, les opposants au président Kabila, la conférence épiscopale nationale du Congo comme une bonne partie de la population attendent du chef de l'État une déclaration claire sur le fait qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. D'autant plus que certains cadres de sa famille politique n'ont cessé de rappeler ces dernières semaines leur volonté de le voir se représenter à nouveau. Cette adresse devrait également être pour Joseph Kabila une occasion de rassurer la nation à 5 mois des élections quant à l'aboutissement heureux du processus électoral en cours, au respect des engagements contenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre dont une partie de l'opposition appelle toujours à l'application intégrale, ainsi que sur le financement des élections que le gouvernement de la RDC a décidé de prendre totalement en charge. Une chose est sûre, comme l'a affirmé la semaine dernière à VOA Afrique Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président Kabila devrait annoncer des décisions importantes ce jeudi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'armée burkinabé a annoncé mercredi avoir arrêté 60 suspects au cours d'une opération dans le nord du pays qui a permis, selon elle, le démantèlement de bases terroristes. L'opération de bouclage et de fouille des zones suspectes dans la bande frontalière du Nord a débuté le 8 juillet, a précisé l'armée burkinabé. Ces actions conduites avec l'appui des forces aériennes ont permis le démantèlement de bases terroristes et l'interpellation d'une centaine d'individus suspects. Au Nigeria, la police a annoncé hier l'arrestation de 8 présumés djihadistes. Ils auraient participé à l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéens à Chibok, dans le nord-est du pays. Au total, 22 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maïdigouri, la capitale de l'État du Borno. En dehors des 8 présumés djihadistes qui auraient participé à l'enlèvement des lycéens à Chibok, les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides à Maïdigouri et dans d'autres villes du nord du Nigeria. Au Sénégal, les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, se disent déçus de la décision de la Cour d'appel de rejeter la demande de libération de leur client. Ils promettent de poursuivre le combat à l'international pour obtenir sa libération. Le 29 juin, la Cour de la CEDEAO avait jugé arbitraire sa détention préventive ainsi que la violation de son immunité parlementaire. Khalifa Sall est condamné en première instance à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics. L'un de ses avocats, Maître Amadou Ali Khan, indique ici les perspectives de sa défense.
Je dis que c'est la politique, c'est la force de l'État qui le retient en prison. Et donc, dans les prochains jours, nous allons essayer de faire comprendre cette réalité à l'opinion publique nationale et internationale. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre d'une cour qui dit qu'elle n'est pas liée par une décision rendue par une juridiction communautaire.
Maître Amadou Ali Khan à Dakar. La Guinée équatoriale a annoncé l'annulation de tous les contrats avec l'entreprise canadienne CHC, hélicoptère, fournisseur de services de transport et de maintenance pour divers producteurs pétroliers en offshore. Les hydrocarbures représentent 99% des exportations de ce pays d'Afrique centrale qui continue de pâtir de la baisse mondiale des cours du baril en 2014 selon la Banque mondiale.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h05. La vague de critiques suite au sommet d'Helsinki avec le président russe Vladimir Poutine continue d'empoisonner la vie à la Maison-Blanche. Le président Trump a donc tenté hier encore de rassurer la classe politique et l'opinion sur sa fermeté vis-à-vis de la Russie, qui représente toujours une menace pour la démocratie américaine. Nicolas Pinot nous en dit davantage.
Aucun président n'a été aussi ferme que moi sur la Russie. Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias, a déclaré le président américain hier depuis la Maison-Blanche. Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions, a insisté Donald Trump en vantant sa fermeté face à son homologue russe. En début de semaine, le directeur du renseignement américain Dan Coats a mis en avant les évaluations claires de ses services sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et évoqué, je cite, les efforts en cours de Moscou pour saper la démocratie américaine. La Russie, qui a de son côté salué le sommet d'Helsinki comme un grand succès, a déploré l'arrestation aux États-Unis d'une de ses ressortissantes, accusée d'avoir tenté d'influencer en secret des organisations politiques américaines au profit de la Russie.
Les ministres des Finances du G20 se retrouvent ce week-end à Buenos Aires pour parler des menaces qui planent sur la croissance mondiale, en particulier les risques d'une guerre commerciale et de crise dans les pays émergents. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, a donné dès mercredi le ton de cette troisième réunion du G20 Finance sous présidence argentine, en assurant que la guerre commerciale pourrait coûter des centaines de milliards de dollars au produit intérieur brut mondial dans les prochaines années. Elle a aussi prévenu l'administration Trump que l'économie américaine est particulièrement vulnérable parce qu'une grande part de son commerce sera sous le coup de mesures de représailles. Et c'est l'une des conséquences de la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur des produits chinois importés aux États-Unis. Le plus grand complexe portuaire des États-Unis, qui se trouve à Los Angeles, en Californie, sur la côte ouest, s'inquiète de l'impact de ces nouvelles mesures tarifaires et se prépare donc en conséquence. Reportage Elisabeth Lee, récit Bagasikura.
Les dernières semaines ont été extrêmement stressantes pour Liang Yang, qui possède une entreprise de vente en gros à Los Angeles. Liang Yang est un importateur de produits chinois.
Je regarde les nouvelles tous les jours. Quand est-ce que les tarifs seront mis en place? Quand mes marchandises arriveront-ils? C'est une course contre la montre. J'essaie de commander tous mes produits à l'avance pour le reste de l'année.
La plupart de ces biens, tels que les jouets et les t-shirts, proviennent de Chine, pays d'origine de Liang. Il s'attend à une augmentation de 10 à 20% de coûts d'expédition. À mesure que les prix augmentent à cause des tarifs, certains fabricants et détaillants peuvent commander moins de produits, réduisant ainsi le volume du commerce et du transport maritime entre les deux pays. Stéphane Cheng est membre du Centre du commerce mondial de Los Angeles.
Une fois que cela se produira, vous verrez une augmentation de frais de port, car si vous n'avez pas le volume nécessaire pour justifier les échanges de marchandises, vous constaterez une augmentation supplémentaire de ces frais de port.
Et bien sûr, les frais de port affecteront tous les échanges entre les États-Unis et la Chine, pas seulement les marchandises sur la liste à taxer. Le secteur du commerce et de la logistique, qui comprend les ports et la chaîne d'approvisionnement des camions et des entrepôts, sera la première victime de la guerre commerciale. Liang affirme qu'il va subir des pertes et ses marges vont diminuer.
Si les tarifs augmentent encore de 10 ou 20%, nous devrons augmenter nos prix.
Stéphane Cheng du Centre du commerce mondial de Los Angeles.
Donc, les consommateurs vont le sentir dans leur porte-monnaie très rapidement.
John Kenagi est l'un des responsables du port de Long Beach, l'un des deux ports de Los Angeles.
Nous devons attendre et voir comment les entreprises restructurent leur réseau d'approvisionnement et s'adaptent à l'environnement tarifaire.
John Kenagi affirme que jusqu'à présent, le port a vu des volumes records de containers cette année, mais il a des inquiétudes.
Une guerre commerciale soutenue à long terme pourrait être dévastatrice pour les deux économies.
Les responsables de l'administration Trump insistent sur le fait que les entreprises américaines seront mieux loties après les tarifs.
L'armée birmane s'est livrée à une préparation systématique du génocide Rohingya, qui a poussé plus de 700 000 d'entre eux à l'exil en 2017, a accusé aujourd'hui l'ONG International Fortify Rights, livrant une liste de 22 responsables, dont le puissant chef de l'armée. Les autorités birmanes ont fait des préparatifs systématiques pendant des semaines, voire des mois avant les attaques du 25 août 2017 pour obtenir des crimes de masse contre des civils rohingyas, écrit l'ONG dans un rapport de 160 pages, publié donc ce jeudi. Jean-Roger Billon, prochain journal, dans 50 minutes, ce sera accompagné d'Henri Pantou.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.